Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur cet épisode bonus du podcast de voixpoétiques.com. Je suis David, votre hôte, et aujourd'hui nous allons étudier la voix secrète d'André Breton. Je suis persuadé qu'il existe des êtres qui sont porteurs d'une mission secrète. Des hommes dont l'existence entière se déploie comme un mystère nous restant à déchiffrer. André Breton fut l'un de ces rares initiés qui transformèrent la littérature en laboratoire spirituel, faisant du surréalisme bien plus qu'un mouvement artistique, mais une véritable voie d'éveil, un chemin vers les territoires inconnus de la conscience humaine. Derrière l'image du théoricien révolutionnaire se cache un chercheur de l'absolu, un moderne Nicolas Flamel qui cherchait non l'or vulgaire, mais l'or du temps, cette substance secrète inscrite sur sa tombe au cimetière des Batignolles. Lorsque l'on pénètre dans l'intimité de cette œuvre, on découvre que le surréalisme de Breton n'était pas seulement une esthétique de la transgression, mais une authentique voie spirituelle, héritière des traditions hermétiques et alchimiques, qu'il étudiait avec la passion d'un adepte. Sa quête perpétuelle d'un état de conscience élargi, ses expérimentations avec l'automatisme, ses recherches sur les coïncidences et le hasard objectif révèlent un homme habité par une soif mystique que ses contemporains ont souvent méconnue. L'aventure spirituelle de Breton commence véritablement en 1922, dans l'atmosphère feutrée de son atelier de la rue Fontaine. C'est là que se déroulent les célèbres séances de sommeil hypnotique, véritable laboratoire de l'esprit, où le groupe surréaliste explore les territoires limites de la conscience. Ces expériences, loin d'être de simples jeux littéraires, s'inscrivent dans une tradition ésotérique millénaire, l'accès aux états modifiés de conscience pour révéler les vérités cachées de la mémoire. Robert Desnos devient rapidement le médium prodige de ces séances. Sous l'œil fasciné de Breton, il s'endort et dicte des poèmes d'une beauté saisissante, dessine des figures mystérieuses, répond aux questions comme un oracle antique. Ces moments de grâce révèlent à Breton l'existence d'une zone secrète de l'esprit, un territoire où la beauté jaillit spontanément, libérée des entraves de la raison. Il comprend alors que l'art véritable ne naît pas de la volonté consciente, mais de l'abandon à des forces supérieures qui habitent chaque être humain. Pourtant, Breton interrompt brutalement ses expériences. Visionnaire, il pressent les dangers de ses explorations, la désintégration de la personnalité, l'attraction de l'abîme. Cette prudence révèle sa véritable nature, non pas celle d'un illuminé, mais d'un guide spirituel responsable, conscient que certaines portes ne doivent s'ouvrir qu'avec la plus extrême précaution. Cette sagesse le distingue des aventuriers de l'esprit et fait de lui un authentique maître spirituel soucieux de préserver l'intégrité de ses disciples. L'automatisme, selon Breton, dépasse infiniment la simple technique littéraire. Il constitue une véritable pratique spirituelle comparable aux exercices de méditation des traditions orientales et aux oraisons mystiques des contemplatifs chrétiens. Quand il invite à écrire, sans sujet préconçu en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, il prescrit en réalité un exercice de vidage mental, une mise en disponibilité totale qui permet à l'esprit profond de s'exprimer. Cette approche révèle l'influence méconnue des traditions ésotériques sur sa pensée. L'écriture automatique bretonienne emprunte aux pratiques des médiums spirites du XIXe siècle, qu'il fréquente d'ailleurs assidûment, mais les transfigure en méthode d'accès à l'inconscient créateur. Il ne s'agit plus de communiquer avec les morts, mais de dialogue avec les forces vives de l'esprit, ces puissances perdues que l'humanité doit reconquérir selon lui. L'automatisme devient ainsi un nettoyage spirituel selon ses propres termes, une purification de l'âme encombrée par les conventions sociales et les inhibitions mentales. Cette dimension cathartique rapproche sa méthode des pratiques initiatiques traditionnelles. Il faut d'abord détruire l'homme ancien pour que naisse l'homme nouveau, régénéré par le contact avec les sources vives de l'être. La dimension ésotérique de Breton se révèle pleinement dans sa relation passionnée avec l'alchimie. Dès 1925, dans sa lettre aux voyantes, il établit une filiation directe avec Nicolas Flamel, comprenant que le grand œuvre alchimique ne vise pas l'enrichissement matériel, mais l'édification d'une fortune spirituelle. Cette intuition fondamentale irrigue toute son œuvre. Le surréalisme comme voie de transformation intérieure, art de transmutation de la conscience humaine. Sa bibliothèque témoigne de cette passion. Les classiques de l'alchimie côtoient les manifestes révolutionnaires. Paracelse dialogue avec Marx. Fulcanelli rencontre Freud. Cette synthèse audacieuse révèle l'originalité profonde de sa démarche. Réconcilier la révolution sociale et la révolution spirituelle. Faire de l'art un instrument de transformation totale de l'homme et du monde. L'amitié qu'il entretient avec Eugène Cancelier, disciple de Fulcanelli, n'est pas anecdotique. Elle inscrit Breton dans une filiation initiatique authentique, le reliant à cette chaîne dorée des chercheurs de vérité qui traversent les siècles. Leur conversation, dans le salon des Lesseps, avenue Montaigne, nourrissent sa réflexion sur les correspondances secrètes qui unissent tous les phénomènes de l'univers. Cette imprégnation alchimique culmine dans Arcane 17, œuvre testament où Breton développe sa vision de l'ésotérisme comme système de comparaison de champs illimités, permettant de découvrir la mécanique du symbolisme universel. Il ne s'agit plus ici de littérature, mais de métaphysique appliquée, de science, des analogies universelles qui fait écho aux plus hautes traditions spirituelles de l'humanité. L'astrologie occupe une place secrète mais centrale dans l'univers bretonien. Cette très grande dame, fort belle, est venue de si loin, détient selon lui les plus hauts secrets du monde. Dans son atelier de la rue Fontaine, 19 thèmes astrologiques ornent les murs. Ceux de ses amis, de ses maîtres spirituels, de Baudelaire à Lautrémont. Cette galerie est cosmique, révèle sa conception de l'art comme science des influences subtiles qui gouvernent les destinées humaines. Sa fréquentation assidue de la librairie Chacornac du quai Saint-Michel le met en contact avec le milieu occultiste parisien. Loin d'être en dilettante, il étudie sérieusement les sciences traditionnelles, y cherchant les clés d'une compréhension renouvelée de l'homme et de l'univers. Cette démarche l'apparente au grand magicien de la Renaissance, qui réconciliait art, science et magie dans une vision unifiée du cosmos. L'épisode de la séance de voyance du 7 janvier 1927 à l'Institut Métapsychique International révèle un aspect méconnu de sa personnalité. Loin de se contenter d'observer de l'extérieur les phénomènes paranormaux, il s'y soumet personnellement, occupant la chaise 65 face au voyant Pascal Fortuny. Cette curiosité expérimentale témoigne de son approche scientifique du merveilleux. Il ne croit pas aveuglément, il vérifie, il expérimente. Il cherche à comprendre les mécanismes secrets de ses facultés extraordinaires. La beauté sera convulsive ou ne sera pas. Cette formule célèbre, qui clôt Nadja, résume toute une esthétique mystique. La beauté convulsive n'est pas seulement une catégorie esthétique, mais un mode de révélation spirituelle. Elle procède par saccade, par illumination fulgurante, qui déchire le voile des apparences pour révéler la vérité cachée des êtres et des choses. Cette beauté, érotique voilée, explosante fixe, magique circonstancielle, emprunte son vocabulaire aux traditions initiatiques. L'érotique voilée évoque les mystères d'Éleusis où la révélation ultime se dissimulait sous des symboles sexuels. L'explosante fixe rappelle la coidantia, oppositorum des alchimistes. Cette union des contraires qui caractérise la pierre philosophale. Le magique circonstanciel désigne cette capacité de l'art à révéler les correspondances secrètes qui unissent tous les phénomènes. Pour Breton, cette beauté convulsive surgit dans les moments privilégiés où l'ordinaire bascule dans l'extraordinaire, où le quotidien se transfigure en merveille. Elle ne se commande pas, elle advient comme une grâce, transformant celui qui la perçoit en voyant capable de déchiffrer les hiéroglyphes secrets de l'existence. L'amour, selon Breton, transcende infiniment la simple passion amoureuse pour devenir une authentique voie spirituelle. Son amour fou emprunte autant au mysticisme courtois qu'aux traditions tantriques. L'union des contraires, la femme comme médiatrice du sacré, l'extase amoureuse comme anticipation de l'illumination mystique. Chacune de ces rencontres amoureuses devient une initiation particulière. Simone Kahn lui révèle l'amour mystique et tendre. Nadja l'introduit au mystère du hasard objectif et de la médiumnité. Jacqueline Lamba incarne l'accomplissement prophétique de l'amour fou. Elisa Bindoff guide sa renaissance spirituelle après les ténèbres de la guerre. Ces femmes ne sont pas seulement des compagnes, mais des initiatrices qui lui révèlent différents aspects de la vérité amoureuse. Sa théorie de la femme-enfant puise aux sources de l'ésotérisme traditionnel, comme la Sophia des Gnostiques ou la Shekina de la Kabbale. La femme devient chez lui médiatrice entre le monde visible et l'invisible, gardienne des mystères de l'inconscient créateur. Cette vision, loin d'être réductrice, élève la femme au rang de prêtresse de l'absolu, détentrice de ses pouvoirs perdus que l'humanité doit reconquérir. Le hasard objectif constitue peut-être la contribution la plus originale de Breton à la spiritualité moderne. Cette rencontre d'une causalité externe et d'une finalité interne révèle l'existence d'un ordre secret du monde, d'une logique supérieure qui échappe aux catégories rationnelles habituelles. Les coïncidences qui jalonnent sa vie, la rencontre avec Nadja, l'accomplissement prophétique du poème Tournesol dans sa relation avec Jacqueline Lamba, ne relève pas, selon lui, du simple hasard statistique. Elle manifeste l'existence de correspondances universelles comparables à celles qu'évoquait Baudelaire dans son sonnet fameux. Le monde devient un immense livre de symboles dont l'art authentique permet de déchiffrer quelques pages. Cette conception rapproche Breton des traditions divinatoires les plus anciennes. Comme les Aruspis antiques lisaient l'avenir dans les entrailles des victimes, comme les géomanciens médiévaux déchiffraient les messages célestes dans les configurations terrestres, il apprend à lire les signes que lui adresse l'inconscient collectif à travers les coïncidences du quotidien. En 1957, l'art magique révèle la synthèse ultime de sa pensée ésotérique. Cette œuvre testament affirme que l'œuvre d'art tire son origine de la magie et que tout art est magique, en tant qu'il permet de résoudre l'énigme du monde. Loin des esthétiques formelles, Breton revendique une conception opérative de l'art. L'œuvre authentique transforme selon qui la contemple, elle agit sur la réalité, elle participe à la grande œuvre de transformation du monde. Cette vision magique de l'art s'enracine dans une compréhension profonde de l'hermétisme traditionnel. L'artiste devient un mage moderne, capable de capter les forces subtiles de l'univers et de les cristalliser dans des formes sensibles. L'œuvre d'art authentique fonctionne alors comme un talisman, concentrant et redistribuant les énergies cosmiques pour élever la conscience de l'humanité. Cette conception dépasse infiniment le cadre de l'art pour embrasser une véritable anthropologie spirituelle. L'homme authentique, selon Breton, doit devenir artiste mage, capable de transformer sa propre existence en œuvre d'art, de faire de sa vie un poème perpétuel ouvert sur l'infini des possibles. La vie quotidienne de Breton révèle un homme habité par le sens du sacré. Sa plaque mystérieuse 1713, qui orne sa porte, code secret désignant ses initiales AB, témoigne de son goût pour les symboles hermétiques. Cette discrétion initiatique révèle un aspect méconnu de sa personnalité, loin d'être un exhibitionniste de l'avant-garde. il cultive le secret comme un véritable adepte des sciences occultes. Son appartement, de la rue Fontaine, ressemble davantage au cabinet d'un alchimiste que d'un simple logis d'écrivain. Plus de 5000 objets y créent un univers analogique fascinant. Masques océaniens, sculptures précolombiennes, minéraux ramassés au hasard des promenades. Tout concourt à créer un environnement propice aux correspondances et aux révélations. Cette accumulation obsessionnelle n'est pas simple collectionnisme, mais véritable pratique spirituelle. Chaque objet fonctionne comme un support de méditation, un déclencheur d'associations libres qui nourrissent sa création. Ces habitudes révèlent un homme soucieux de préserver les conditions de son inspiration. Plutôt casanier, enclin au rituel, il organise minutieusement son temps et son espace pour maintenir cette disponibilité intérieure indispensable à l'éclosion du merveilleux. Cette discipline monastique rapproche sa démarche de celle des mystiques traditionnels qui savent que l'extraordinaire ne surgit que dans l'ordinaire parfaitement maîtrisé. Autour de Breton se constitue progressivement une véritable fraternité spirituelle qui dépasse largement le cadre littéraire habituel. Ses amitiés avec Robert Amblin, René Allot, Robert Amadou révèlent ses liens avec les milieux ésotériques parisiens. Ces hommes ne sont pas de simples connaissances intellectuelles, mais des compagnons de route dans la quête de l'absolu, des chercheurs unis par la même soif de transcendance. Sa correspondance avec Paul Éluard révèle la dimension fraternelle de cette aventure spirituelle. Les lettres d'Éluard témoignent d'une admiration qui confine à la vénération. André, qui veut dire homme en grec, écrit-il, révélant qu'il voit en son ami l'incarnation de l'homme accompli, de l'anthropo des traditions gnostiques. Cette fraternité élective unit des êtres conscients de participer à une œuvre qui les dépasse, à une régénération de l'humanité par l'art et la poésie. Même ces exclusions révèlent cette exigence spirituelle. Quand il rompt avec Aragon, Desnos ou Dali, c'est toujours au nom d'une fidélité supérieure aux valeurs du surréalisme, conçue comme voie d'éveil. Ces ruptures douloureuses témoignent de son intransigeance mystique. Il préfère la solitude à la compromission, l'authenticité à la facilité mondaine. Les voyages de Breton prennent la dimension de véritables pèlerinages initiatiques. Sa découverte de la Martinique et sa rencontre avec Aimé Césaire révèlent sa capacité à reconnaître les manifestations authentiques de l'esprit surréaliste sous toutes les latitudes. Césaire parle d'un coup de foudre et dit avoir été littéralement fasciné par Breton. Cette fascination mutuelle témoigne de la reconnaissance entre deux authentiques visionnaires. Son séjour chez les Indiens Hopi d'Arizona marque profondément sa spiritualité. Dans son carnet ethnologique, il consigne d'ailleurs minutieusement les détails de ces civilisations qui ont préservé le contact avec les forces sacrées de la nature. Cette expérience confirme sa conviction que le surréalisme retrouve intuitivement des vérités spirituelles universelles présentes dans toutes les traditions authentiques de l'humanité. Son passage en Haïti prend des dimensions prophétiques. Ses conférences sur la poésie et la liberté contribuent au renversement du dictateur Lescaut. Cette synchronicité révèle la dimension opérative de sa parole. Loin d'être simple théoricien, Breton devient un véritable mage du verbe, dont les incantations transforment effectivement la réalité. L'influence de Breton sur ses contemporains révèle sa dimension de maître spirituel authentique. Denis de Rougemont évoque sa présence d'esprit indiscernablement ironique, admirante et solennelle, et s'exclame qu'on lui donne un royaume. Cette reconnaissance spontanée témoigne du charisme particulier de cet homme qui incarnait les valeurs qu'il prônait. Aimé Césaire le décrit comme un détecteur prodigieux, une sorte de tête chercheuse, capable de flairer la poésie authentique, comme n'importe quel pollen dans l'air. Cette métaphore révèle une faculté quasi surnaturelle. Breton possède cette sensibilité spirituelle qui lui permet de reconnaître immédiatement les manifestations authentiques de l'art et de l'esprit. Sa pédagogie spirituelle passe moins par l'enseignement direct que par l'exemple et la contagion. Comme tous les véritables maîtres, il transforme ceux qui l'approchent par sa seule présence, leur révélant les possibilités d'être qu'ils ignoraient posséder. Le surréalisme devient ainsi moins une école esthétique qu'une méthode de développement spirituel, une voie de révélation des potentialités créatrices enfouies en chaque être humain. Les dernières œuvres de Breton révèlent la maturité spirituelle de sa démarche. Arcane 17 synthétise toutes ses recherches ésotériques dans une vision renouvelée de la condition humaine. L'arcane 17 du tarot, l'étoile, symbolise l'espoir et la régénération après l'œuvre. Cette carte, choisie comme emblème de son livre Testament, révèle sa fonction ultime, guide vers la renaissance spirituelle de l'humanité, après les ténèbres de la guerre et de la barbarie. Sa conception de la femme comme médiatrice de cette renaissance s'enracine dans les traditions les plus anciennes, comme Isis rassemblant les morceaux épars d'Osiris. La femme, selon Breton, doit reconstituer l'unité perdue de l'homme, modernité déchirée entre raison et imagination, conscience et inconscient, individu et cosmos. Cette vision prophétique fait de Breton un précurseur des mouvements spirituels contemporains qui cherchent à réconcilier Orient et Occident, science et tradition, révolution sociale et transformation intérieure. Son message demeure d'une actualité brûlante. L'art authentique peut encore sauver l'humanité en lui révélant les dimensions oubliées de son être. Aujourd'hui, quand je relis Breton avec les yeux de la spiritualité contemporaine, je découvre un homme infiniment plus riche et plus complexe que l'image traditionnelle du chef d'école avant-gardiste. Derrière le théoricien révolutionnaire se révèle à moi un authentique mystique de la modernité, un chercheur d'absolu qui a su transposer dans le langage de son époque les vérités éternelles des traditions spirituelles. Son influence souterraine irrigue encore nos recherches contemporaines sur les états modifiés de conscience, la créativité, les synchronicités, la transformation spirituelle par l'art. Psychologue transpersonnel, artiste visionnaire, chercheur en conscience, retrouve chez lui des intuitions fondamentales qu'il développe avec les outils de notre époque. Le surréalisme, selon Breton, ne fut jamais un simple mouvement artistique, mais une véritable voie d'éveil adaptée à l'homme moderne. En révélant les pouvoirs cachés de l'imagination, en explorant les territoires inconnus de l'inconscient, en déchiffrant les correspondances secrètes du monde, il a ouvert des chemins que nous continuons de parcourir encore aujourd'hui. Sa tombe ornée du château étoilé, cette pierre en forme de sceau de Salomon, trouvée à Dôme peu avant sa mort, témoigne jusque dans la mort de sa fidélité aux traditions hermétiques. Cette pierre devient le symbole parfait de son œuvre, un talisman capable de transmettre aux générations futures cette soif de l'absolu qui animait toute sa démarche. « Je cherche l'or du temps », avait-il écrit en 1924. Ces mots, gravés sur sa tombe, résume toute une vie consacrée à la transmutation spirituelle. Car l'or qu'il cherchait n'était autre que cette substance précieuse qui transforme l'existence ordinaire en aventure extraordinaire. La poésie conçue comme voie royale vers les mystères de l'être. Ainsi, André Breton demeure-t-il au-delà des modes et des polémiques, l'un des rares guides spirituels authentiques qu'ait produit la modernité occidentale. Son message continue de résonner pour tous ceux qui refusent la désacralisation du monde et croient encore au pouvoir transformateur de l'art et de la poésie. Dans un monde où l'homme semble avoir perdu le contact avec les dimensions sacrées de l'existence, la voie tracée par Breton garde toute sa pertinence. Faire de sa vie une œuvre d'art, transformer le quotidien en merveille, retrouver ses pouvoirs perdus que l'humanité doit reconquérir pour accéder à sa véritable destinée. Le surréalisme fut bien, selon la formule de Pierre Desnos, cet ordre secret qui résume le mot de magie. Une magie comprise non comme superstition ou illusion, mais comme science suprême de la transformation. Transformation du regard, de la conscience de l'être tout entier, ouvert sur l'infini des possibles. Telle fut la véritable révolution bretonienne. Avoir montré que l'art authentique demeure la voie royale vers cette surréalité où se réconcilieront enfin tous les contraires qui déchirent l'homme moderne. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.